climat de lutte, comme son nom l'indique.
La radio qui se mouille pour qu'il fasse beau.
Il est 18h30 sur la Clé des Ondes et c'est l'heure de Point Chaud. Point Chaud, tous les jours de 18h30 à 19h, c'est un tour de l'actu sociale et culturelle sur la Clé des Ondes. Ce soir, on vous propose de réentendre l'essentiel de ce qui s'est dit dans notre plat de résistance. C'était ce midi sur notre antenne.
Quelques informations complémentaires. En Nouvelle-Aquitaine, 6 candidats du centre et de droite ne se sont pas désistés face à l'extrême droite, malgré des triangulaires dans certaines circonscriptions pour le second tour des législatives. Ils prennent ainsi le risque de favoriser une victoire du Rassemblement national. C'est le cas notamment en Corrèze, où Francis Dubois, républicain, a refusé de se retirer alors qu'il est arrivé en troisième position derrière le Front populaire et le RN. C'est également le cas en Charente, où Thomas Mesnier a décidé de ne pas se désister, au motif qu'il disposerait, selon lui, de plus de réserves de voix. Des désistements qui résistent, dus à la politique du ni le RN ni LFI de certains de la majorité présidentielle, notamment Édouard Philippe et Bruno Le Maire. Jordan Bardella a-t-il peur d'une femme? Titre le collectif féministe Nous Toutes dans un post Instagram. Et la réponse est oui. Le candidat du RN devait débattre hier avec la chef des écologistes Marine Tondelier sur BFM TV. Jordan Bardella a décliné et il a à la place proposé un débat avec Jean-Luc Mélenchon, ce que les candidats Nouveau Front Populaire ont refusé, ne voulant pas céder aux pressions. Alors pourquoi ce refus? Selon le collectif Nous Toutes, car il risque gros. Marine Tondelier sait à quel point les femmes seraient les premières victimes du RN. De plus, Marine Tondelier est une experte du RN. Cela fait 10 ans qu'elle est élue d'opposition dans un fief d'extrême droite à Hénin-Beaumont. En réponse, 230 femmes de tous horizons ont signé une tribune mercredi 2 juillet dans Libération pour demander à BFM TV de ne pas invisibiliser et silencer les femmes en politique. Et finalement, le débat sur BFM TV qui a eu lieu hier, enfin qui n'était pas un débat, c'était une succession du coup de Jordan Bardella, Marine Tondelier et Gabriel Attal qui se sont succédés dans des interviews individuelles à l'antenne. Le Monde vient de publier hier une enquête vidéo intitulée « Enquête sur Cyril Hanouna et ses dérapages ». Pour cette enquête, l'équipe du Monde a analysé la totalité de l'émission « On marche sur la tête » sur Europe 1 de Cyril Hanouna, chroniqueur de divertissement pour l'émission TPMP sur C8. Il anime depuis peu une émission politique sur les législatives. Le Monde a fait un décompte du temps de parole à l'antenne. Et l'analyse du Monde montre comment ce qui est présenté comme une émission de débat et de décryptage s'est transformé en émission de propagande politique en pleine période électorale. Cyril Hanouna représente à lui seul plus d'un tiers du temps de parole, dont 30 minutes à critiquer le Nouveau Front Populaire contre 0 minute pour le Rassemblement National. Sur l'ensemble des 10 jours de diffusion, la gauche a bénéficié d'un temps de parole de 27 minutes contre presque 2 heures pour l'extrême droite. De plus, des dizaines de minutes d'antenne ont été supprimées des replays. Selon un cabinet de conseil juridique, plusieurs extraits exposent Europe 1 et Cyril Hanouna à des poursuites judiciaires sur la base de la diffamation et de la présomption d'innocence. Et le 19 juin, l'ARCOM, organisme de régulation des médias, a rappelé à Europe 1 de traiter avec mesure et honnêteté l'actualité électorale et d'assurer une pluralité de points de vue. Le Parti Socialiste, dans un post Instagram datant du 22 juin, questionne « À quoi ressemblerait un gouvernement Rassemblement National ?» Eh bien, selon le PS, il pourrait être constitué de Sébastien Chenu, comme ministre de l'Intérieur. Il est pour l'interdiction de la binationalité. Il a notamment déclaré « On ne peut pas être français pour certaines choses et uruguayen pour d'autres ». Au ministère de l'Intérieur, Julien Oudoul, qui est pour laisser mourir les migrants et migrantes qui arrivent en Europe. Au ministère de la Mer et des Océans, Fabrice Leggeri, qui est notamment poursuivi pour complicité de crimes contre l'humanité et torture. Alors cette composition ministérielle, elle n'existe pas, elle est fictionnelle, et le PS l'a mise en avant pour mettre en garde sur la dangerosité de l'extrême droite, mais elle pourrait peut-être voir le jour. C'est d'ailleurs ce qu'anticipent Inès, Bilal, Anissa, Cyrine et Sarah, des binationaux ou descendants d'immigrés qui préparent leur départ. Interrogé par Street Press, il n'imagine pas vivre dans un pays gouverné par le Rassemblement National. Luden s'exprime et lance « 10 millions de mes concitoyens m'envoient le message en pleine face que je ne suis pas assez française pour eux ». Face à cette violence, la résistance s'organise et ne fléchit pas. Hier à Paris, place de la République, plus de 30 000 personnes étaient rassemblées contre l'extrême droite. À Bordeaux, une manifestation contre le racisme et contre l'extrême droite aura lieu demain, vendredi. Elle est appelée par des syndicats, la FSU, Solidaires, le syndicat lycéen FIDL et des associations comme SOS Racisme, la Ligue des droits de l'homme, Attaque, le Planning familial et l'AG Féministe. Rendez-vous demain à 18h30, place de la Victoire. Et enfin, on parlait mardi dans cette émission de la grève à la clinique d'Arcachon. Les personnels annoncent reprendre le travail aujourd'hui après une victoire de taille, l'obtention de 150 euros brut de prime mensuelle. Une belle victoire pour elles et eux. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la Maison des Femmes de Bordeaux, un lieu de soutien et de solidarité pour de nombreuses femmes. On parlera des parcours de différentes femmes et de l'importance du rôle crucial du travail associatif dans leur vie. On parlera également d'un projet intitulé « Femmes d'ici et d'ailleurs », 9 portraits de femmes d'ici et d'ailleurs qui ont été diffusés sur la Clé des Ondes durant 2 semaines et qui sont à réécouter en podcast sur notre site. Un projet qui donne la parole aux femmes, qui passe par la Maison des Femmes. On abordera également l'actualité politique et la percée inquiétante de l'extrême droite en France. Nous discuterons des répercussions de cette situation sur les personnes immigrées et sur les associations qui les soutiennent. Pour en parler aujourd'hui, on est avec Isabelle. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Tu es salariée à la Maison des Femmes.
Oui.
Et Hope, bonjour Hope.
Bonjour.
Toi, tu es passée par la Maison des Femmes.
Oui.
D'abord, est-ce que je peux te laisser te présenter, Hope ?
Oui, je m'appelle Hope. Ça fait plus d'un an que je participe aux activités de la Maison des Femmes. Je suis arrivée en France en tant qu'étudiante et je fais un master 1.
Un master en ?
En pratique artistique et action sociale.
Merci. Alors Isabelle, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la Maison des Femmes ? Qu'est-ce que c'est que ce lieu ?
Alors la Maison des Femmes, elle existe depuis plus de 20 ans. C'est un lieu associatif qui a été créé par des femmes féministes. C'était un lieu pour que les femmes se retrouvent, discutent, etc. Et ça s'est professionnalisé. Donc on a aujourd'hui une grosse partie d'accueil pour les femmes victimes de violences sexuelles et conjugales. Et l'autre partie sur tout ce qui est accompagnement social. Pour toutes les femmes. C'est un accueil inconditionnel pour toutes les femmes. Elles arrivent de partout. Et elles viennent. On doit pouvoir mieux les orienter, les écouter. C'est avant tout aussi un lieu d'écoute.
Et donc, toi, Hope, tu te rends à la Maison des Femmes. Qu'est-ce que c'est la Maison des Femmes pour toi ?
La Maison des Femmes, pour moi, c'est pour se retrouver avec les autres, pour me faire guider. Et aussi, j'ai fait mon stage là-bas et ça m'a beaucoup aidée. J'ai rencontré des femmes qui sont dans le même cas que moi et ça m'a permis de savoir que je ne suis pas toute seule.
Donc la Maison des Femmes, ça a la particularité d'être un lieu en non-mixité, comme il en existe peu à Bordeaux. Pourquoi ce choix de la non-mixité, Isabelle ?
Alors, c'est les camarades, si on peut dire, qui ont créé cette Maison des Femmes, un lieu non mixte, parce que les femmes s'expriment mieux, bien sûr, quand elles sont entre elles. C'est un lieu plus sécur pour elles, puisque les femmes, souvent, quand elles viennent, surtout pour toutes les femmes qui sont victimes de violences, elles arrivent dans un lieu où elles savent qu'elles n'auront pas à rencontrer des hommes. Et les femmes se libèrent, la parole se libère beaucoup plus facilement, quand même, entre femmes.
Et toi, Hop, est-ce que c'est quelque chose de particulier aussi, le fait qu'il n'y ait que des femmes ?
Oui, ça m'a lâchée parce que la cause des femmes, ça me tient beaucoup à cœur. Et d'où je viens, les femmes n'ont pas beaucoup de paroles. Et c'est une occasion pour moi d'apprendre plus et de me déployer.
Et le fait d'être entourée que de femmes, tu disais que tu rencontrais aussi certaines femmes qui étaient dans ta situation, c'est un soutien aussi pour toi ?
Oui, ça me soutient beaucoup.
Donc il y a des ateliers également qui sont organisés à la Maison des Femmes, Isabelle. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu de ces ateliers ?
Nous, sur notre partie, on est 2 salariés sur tout ce qu'on appelle accompagnement social, donc il y a Marion et moi, et donc on organise des ateliers en fonction du désir des femmes, aussi des opportunités, par exemple, Hop, qui est ici, nous a fait un atelier crochet parce que dans son pays d'origine, elle faisait beaucoup de crochet. Et elle a fait un atelier crochet. C'est un exemple. Hein. Mais donc, du coup, on essaye de faire des ateliers les vendredis, une à deux fois par mois. C'est plutôt un prétexte aussi de lien, mais aussi de faire des choses qui les évadent. Elles ont besoin de se détendre. Donc, ça passe du loisir à la culture. C'est très variable, ça peut être du jardinage, mais ça peut être aussi un arpentage, lire un livre à plusieurs, ça peut être des choses manuelles, c'est très varié, c'est en fonction aussi de elles, ce qu'elles peuvent proposer, les femmes qui viennent, voilà.
Et donc, pour parler un petit peu de l'évolution de la Maison des Femmes, de tout le travail aussi que vous faites, comment est-ce que ça a évolué un petit peu, vous, votre travail dans ce secteur associatif, de quels moyens vous disposez et de quoi est-ce que vous auriez besoin aussi peut-être?
Les moyens, on est donc du coup nous financés par les institutions, hein, donc département, mairie, État. Et les moyens que nous aurions besoin, c'est surtout qu'on puisse continuer à travailler avec des salariés. On est 4 salariés. Donc il y a eu une augmentation d'une masse salariale qui était vraiment nécessaire d'ailleurs, parce que nous avons beaucoup d'accueils. Les accueils ont augmenté, hein, autant sur les violences que sur l'accompagnement social. Nous avons il y a 2 salariés à 35 heures et 2 salariés à 30 heures. Enfin voilà. Et du coup, ce qu'on aurait besoin surtout, c'est qu'on puisse continuer à travailler, qu'on puisse continuer bien sûr à rémunérer les salariés, et qu'on puisse avoir toujours un local comme le local actuel, qu'on puisse toujours avoir un lieu d'accueil chouette, correct, etc. Pour le moment, on tient le coup. On tient le coup parce que il y a une bonne base de travail qui est là déjà depuis plusieurs années. Moi, j'y suis depuis 4 ans et demi, mais cette Maison des Femmes, elle existait avant. Elle a une équipe de salariés qui est quand même... professionnelle, hein, j'ai envie de dire. Elle est professionnelle, l'équipe de salariés, plus un conseil d'administration qui est très investi. Voilà, donc du coup, pourvu qu'on puisse continuer à travailler. Bien sûr qu'il faudrait des moyens supplémentaires. Toujours, il faudrait créer d'autres lieux d'accueil. Des lieux d'accueil en plus.
Donc tu me dis que les femmes qui se rendent à la Maison des Femmes, le nombre a augmenté, mais que la masse salariale est restée la même. Comment est-ce que vous arrivez à tenir bon? Et comment est-ce que t'expliques aussi cette augmentation de la violence peut-être et de femmes qui se rendent à la Maison des Femmes?
Alors la masse salariale a augmenté ces dernières années. Là. Avant, elles étaient très peu. Hein. Il y avait un salaire, je crois, une salariée et demie, 2 salariés... maximum, et là on est quand même 4 sur 2,35 heures et 2,30 heures. Donc du coup, il y a eu vraiment une évolution dans ce sens, justement d'avoir plus de salariés, parce qu'il y avait plus d'accueil. Surtout, alors les violences, ça, malheureusement, je ne peux pas parler à la place de mes collègues qui font l'accueil violence, mais ça ne s'arrête pas. Il y a toujours autant de violences faites aux femmes. Pour notre partie à nous, Marion et moi, sur les accueils, comme on appelle ça un peu tout terrain, le problème des femmes qui sont très précaires, de plus en plus de personnes en précarité, des femmes qui arrivent de pays étrangers et qui arrivent ici qui n'ont rien, et de plus en plus qui n'ont rien et qui viennent pour travailler, et c'est le parcours du combattant. Bon, ça c'est tout le travail qui a été fait avec toi Léa, et justement d'où l'intérêt de ces portraits de femmes, parce qu'il y avait... tous les paramètres, on a des femmes qui viennent régulièrement à la Maison des Femmes et qui nous racontent leur histoire. Toi, tu étais à la Clé des Ondes, donc et féministe, et du coup, on trouvait ça intéressant de qu'on montre quelque chose, ce que tu as fait en non-mixité, puisque tu étais là, parce qu'on adore la Clé des Ondes, les garçons sont super, mais c'est la non-mixité qui prime, voilà.
Eh bien, on va écouter un extrait du coup de ce projet qui s'est fait en collaboration un petit peu avec la Maison des Femmes et la Clé des Ondes, et on parlera ensuite de comment ça s'est passé pour vous au Pays Isabelle. Femmes d'ici et d'ailleurs est une symphonie de portraits audio née du cœur battant de la Maison des Femmes de Bordeaux. Des femmes qui dévoilent les douleurs et les colères qui les habitent, mais aussi les rêves et le courage qui les animent. Un projet où la parole est donnée à celles que l'on n'entend pas, une archive vivante de celles qui ont traversé la Maison des Femmes, et un hommage au rôle vital du secteur associatif dans leur parcours. Un plongeon dans ces histoires intimes, où chaque voix porte l'écho d'une vie riche et complexe, tissée de résilience et d'espoir.
En fait, je suis quittée dans mon pays, ça fait presque 10 ans maintenant. J'ai fait la Mauritanie, le Maroc, en Espagne et maintenant en France ici. En fait, la situation de nos pays nous oblige des fois à quitter notre pays parce que souvent les femmes sont persécutées là-bas. Les femmes sont soit ils sont obligés de faire l'excision. Ou bien il y a d'autres femmes aussi qui sont obligées de protéger leurs enfants, filles, pour fuir avec, pour venir en Europe, pour les protéger de l'excision. Et souvent, avec le mariage forcé, on n'a pas trop le choix de rester en famille. On est obligé de quitter notre pays parce qu'on sait que tant qu'on vivra dans notre pays, on va nous retrouver. Donc, le mariage forcé, c'est une réalité chez nous qui existe bien.
Je suis venue pour l'harcèlement de mon fils. Il était dans une école française. Il était très harcelé parce qu'il avait une maladie qui était très grave. Il a fait 4 opérations.
Et ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans que je suis ici en France. Et je suis là pour les soins médicaux. Je suis venue pour les soins médicaux et du coup, je continue. Et c'est pour cela que je suis encore là.
Et j'ai demandé un petit de séjour et on m'a dit non, on ne pouvait pas directement me répondre à ça. Il fallait que je passe directement à la demande d'asile et tout. Et je suis allée à la préfecture et j'ai fait la demande d'asile depuis 2020.
Parce que la devise, quand tu lis la devise, c'est autre chose qu'on pratique. Liberté, il n'y a pas de liberté. Parce que si tu n'es pas en règle, tu ne peux pas être libre. Égalité, il n'y a pas d'égalité. Parce que s'il y avait l'égalité, on ne serait pas en train de se plaindre. La suite, c'est fraternité. Il n'y a pas de fraternité. Donc, la fraternité, c'est pour eux, pas pour tout le monde. Surtout nous, les immigrés, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Nous ne sommes pas des personnes.
Pour faire les femmes, nous, on a quitté de notre pays parce qu'on est persécuté là-bas. Mais quand on vient ici, on reçoit plus que la persécution. Plus que ça. Puisque, au fait, quand l'enfant a 3 ans, il y a d'autres mamans qui sont obligées de faire un autre enfant pour qu'il soit toujours... pour pouvoir avoir toujours le toit. C'est très... Ça veut dire sacrifice du corps. C'est ce qu'on subit ici, on fait ici en France, nous, les femmes. Les femmes font les sacrifices du corps ici. Donc, c'est un pays comme la France, c'est vraiment pas bon pour l'image de la France. C'est ce que j'aimerais dire. Ça me met que dans ce monde, vraiment, il y a vraiment de l'injustice. Il y a vraiment de l'injustice. Parce que, au fait, tous les pays qui se disent droit de l'homme, est-ce que vraiment, la question que je me pose, est-ce que le droit de l'homme, là, ça existe vraiment? Je ne crois pas. Parce que si le droit de l'homme existe, on ne peut pas empêcher une mère de travailler et de nourrir ses enfants. Si le droit de l'homme existe, on ne peut pas empêcher une femme d'avoir le papier de nourrir ou bien d'avoir un toit pour ses enfants. Si le droit de l'homme existe vraiment, on ne peut pas seulement couper de vivre à une personne. Parce que ça, c'est vraiment de couper de vivre à une personne et de le laisser... À sa souffrance, que ça ne regarde personne.
Même la rue, j'ai dormi 20 jours dans la rue. Mon fils, il a été opéré pour les testicules. À l'hôpital, ils m'ont fait sortir à 9 heures du soir. À l'hôpital Saint-Augustin. Ils m'ont fait sortir à 9 heures du soir. De 9 heures du soir, je les ai suppliés. On n'a pas où habiter. On n'est que dans la rue. Ils m'ont dit, madame, on ne peut pas. On est sorti à 9h du soir dans la rue. Le lendemain, l'infirmier, quand il est venu, l'infirmier, il a pleuré quand il nous a vus dans la rue. Il m'a dit, madame, qu'est-ce que c'est ça? C'est l'infirmier, le pauvre, qui nous a ramenés chez lui pour faire les soins à mon fils. Il m'a dit, je ne peux pas lui faire les soins ici dans la rue. Je vais vous emmener chez vous. On est resté 20 jours chez l'infirmier Il m'a donné sa clé, il m'a dit, madame, vous partez chez moi le matin, comme ça vous êtes à l'abri toute la journée, moi je ne suis pas à la maison. Et le soir, je viens, je fais le soin aux petits et je vous emmène où je vous ai trouvé la première fois. Chaque jour, jusqu'à qu'on a fini les 20 jours. C'était très difficile. Moi, je n'ai jamais été dans la rue. Moi, je trouvais les gens dans la rue, je les fais rentrer chez moi. Comme au moins un jour, je tombe dans la rue. J'ai jamais souhaité ou je souhaite à n'importe qui d'être dans la rue. La rue, elle est très difficile. Elle est inhabitable, la rue. C'est vraiment la catastrophe. Et surtout quand on est une femme, il y a les clochards, il y a de tout. Tu peux voir de tout. Moi, je ne dors pas la nuit. Je fais dormir mon fils. Il était encore petit. Je le mets sur mes pieds. Il dort et moi, je suis réveillée parce que j'ai peur. J'ai mon téléphone, j'ai mon passeport avec moi, j'ai mes papiers avec moi. Si jamais ils me volent, d'où je vais ramener mes papiers? Je ne pourrais pas ramener mes papiers.
Voilà, donc on vient d'entendre une compilation de plusieurs extraits de portraits audio de femmes qui sont à retrouver sur notre site internet. Donc Isabelle, c'est toi qui es à l'initiative de ce projet quand même. Qu'est-ce que tu voulais, c'était quoi l'ambition un petit peu de ce projet, pourquoi il existe?
Alors y a, comme je disais, il y avait tous les paramètres, la clé des ondes, on se connaît bien. Bon, toi tu étais là aussi, jeune journaliste et tout, et féministe, donc il y avait tout. Et nous, déjà on a été très choqués par la loi immigration, mais même avant ça on parlait avec nos collègues, on parle quand même avec nos collègues et tout, et toutes les femmes qui viennent, on voit bien que les difficultés en fait quand elles arrivent un petit peu à sortir de la tête de l'eau, ben tout d'un coup il y a un truc qui arrive et paf, elles repartent au point zéro. Et dans l'exemple d'une femme aussi qui avait des papiers, qui a eu un parcours extrêmement difficile, elles ont toutes des parcours difficiles, attention hein, je ne fais pas d'échelle de douleur là-dessus, mais et on s'est dit, bon, faut que ces paroles de femmes, faut qu'elles soient entendues, parce que on les entend jamais en fait. On ne les entend jamais. Nous, elles viennent, c'est un lieu d'accueil, d'écoute, elles peuvent se poser. Mais y a plein de personnes ne savent pas ce qu'elles vivent, en fait. C'est ce qu'on s'est dit. Et ce qui a été un peu déclencheur aussi, ça a été aussi des situations de femmes qu'on a depuis 4 ans et demi. Parce que moi, je suis salariée depuis 4 ans et demi à la Maison des Femmes, mais les choses, elles existaient bien évidemment avant. Mais depuis 4 ans et demi, il y a un noyau de femmes qu'on suit. Et qu'on a vu que leur situation, en fait, elles font un pas en avant et après, c'est 10 pas en arrière. Notamment celle qui se nomme Sarah, vous écouterez les podcasts. Sarah, c'est quelqu'un, sa situation s'était drôlement arrangée, enfin drôlement. Elle avait réussi à avoir des papiers, avoir un emploi, avoir une colocation avec des systèmes avec des associations, hein, etc. Et du jour au lendemain, plus de papiers. Parce que ça n'a pas été renouvelé par la préfecture, parce qu'il y a le nouveau formulaire qui arrive, parce qu'il y a toujours quelque chose, hein, le ci, le là. Résultat, où elle travaillait, ils l'ont licenciée. Puis de papier, elle la licencie. C'est une femme qui a 52 ans, parce qu'en plus, c'est ça qu'il faut voir, il y a des jeunes, mais il y a des femmes aussi qui ont plus de 50 ans, beaucoup, qui arrivent pour travailler en France. Et du coup, elle repart au point zéro, et elle est partie. Elle a tout quitté, elle est partie pour tenter sa chance dans un autre pays. Ça, c'est... Je suis désolée de le dire, je pense à elle tous les jours. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. C'est quelqu'un qui avait des problèmes de santé, qui était extrêmement bien prise en charge en France. Parce qu'il y a encore des choses très chouettes en France, pas assez, mais des associations extraordinaires. Et voilà, et du coup, je ne sais pas, on ne sait pas ce qu'elle est devenue.
Et tu te sens, enfin, vous vous sentez aussi peut-être impuissante face à ce système qui l'a poussée à partir finalement, puisque ouais. Tu dis que c'était des problèmes de papier, la préfecture qui ne délivrait pas.
Oui, c'est ça. On est à un moment donné, on a pris une très grosse claque par rapport à tout ce qui s'est passé ces derniers mois, et notamment là, tout récemment, bien évidemment, avec les élections. Ça pose vraiment question parce que il y a une telle haine dans ce pays face aux étrangers de la part de certaines personnes, mais je dis, c'est pas possible, ils savent pas comment elles vivent. Elles, nous, en l'occurrence, aujourd'hui, on parle de femmes, mais c'est pareil pour les mineurs isolés, etc., pour tous les étrangers, pour beaucoup d'étrangers. Mais on est impuissants, oui, puisque ça, nous, ce qui nous manque vraiment, c'est les papiers et les logements. Voilà, les deux points cruciaux, c'est il faut des papiers et il faut des logements pour qu'elles puissent se poser. Après, c'est des femmes, ça roule. Je suis désolée de le dire, ça roule. Elles sont, il y en a une qui le dit, une autre dans un, c'est des guerrières. Une fois qu'elles sont posées, elles avancent. Elles ont envie d'avoir un petit truc où, tranquille, et elles vont travailler. Elles ont des contrats, faut le savoir, quand elles travaillent, des contrats, mais elles ont, pour des 26 heures, elles font des semaines de 50 heures. Elles se trimballent dans les trams, dans les bus pour aller travailler, ménage, auxiliaire de vie. Enfin, en fait, elles sont dans tous les boulots sous tension. Demain, s'il y a un truc qui se passe dans ce pays et que si on fait partir tous les étrangers, je vous dis franchement, il n'y a plus personne pour bosser dans plein de domaines d'activité. Hein.
On va en parler après des problématiques de travail et de comment est-ce que vous pouvez les accompagner. Toi, Hop, du coup, tu as participé aussi à ce projet et donc on peut écouter ton épisode sur notre site. Comment ça s'est passé pour toi?
Pour moi, ça s'est bien passé. Et en tant qu'étudiante, j'espère que mon titre de séjour va être renouvelé, que je pourrai suivre mes études et surtout avoir un boulot à la fin.
Parce que donc là, toi, actuellement, tu es en master, donc oui. Tu as un visa étudiant. Oui. Et là, pour rester sur le territoire, du coup, ce serait quoi les démarches à faire pour toi?
Pour moi, les démarches, c'est d'avoir au moins 615 euros par mois, parce que, de salaire plutôt, ou d'avoir un garant. Bon, comme je suis venue par moi-même, et je dois tout faire toute seule, travailler et aller au cours. Donc, je ne peux compter que sur moi-même. Et j'espère, parce que les derniers mois, j'ai réduit mes heures de boulot pour pouvoir plus me concentrer sur ma mémoire. Et je n'ai pas forcément les 615 euros par mois. Et j'espère que même avec ça, le titre de séjour pourrait être renouvelé.
Et tu arrives à te débrouiller? Comment est-ce que tu arrives à mener tes études et le travail en même temps?
Si, j'arrive. Parce que c'est en fonction de mes plannings. Je donne mon emploi du temps à l'agence qui m'embauche et en fonction de ça, ils me font les plannings de la semaine. Et quand j'ai des activités à l'université, je leur dis que bon, telle date, je ne suis pas disponible.
Donc pour revenir un petit peu sur le projet de radio de Femmes d'ici et d'ailleurs, c'était que des femmes qui étaient volontaires et donc toi, tu étais volontaire, Hope. Pourquoi est-ce que tu as eu envie de participer à ça?
J'ai eu envie de participer à ça parce que je n'ai pas toujours eu la parole. Je viens d'une famille où c'était abusif. Je ne devais jamais m'exprimer. Mes sentiments n'étaient pas entendus. Et là, je trouve que c'est une bonne occasion de me faire entendre et de partager avec les autres ce qui se passe dans ma vie et ce que je ressens.
Donc, de reprendre un peu du pouvoir aussi sur ton histoire, ton vécu et ce qui t'appartient. Oui. Est-ce que c'était aussi ça, un peu, de faire entendre toi, ta réalité d'étudiante qui galère, qui vient d'un autre pays, pour raconter ta réalité avec tes mots et qu'on arrête aussi d'avoir un imaginaire sur ça, peut-être?
Oui.
Ce projet-là, il va continuer. C'est 9 portraits, on va peut-être pouvoir les illustrer, en faire une expo, on va voir, voilà. C'est porter cette parole des femmes qu'on n'entend jamais, ça, on va continuer. Les accompagner du mieux qu'on peut, se battre pour que ce système y change. Et elles nous donnent la force, ces femmes. Moi, je vous le dis franchement, c'est vrai que ce sont des guerrières. Il y a quelqu'un qui emploie ce terme dans les témoignages. Ce sont des guerrières, oui, véritablement. Alors avec bien sûr des fois des coups de découragement, etc. Mais elles sont toujours là, vous vous rendez compte ce qu'elles subissent, quoi, psychologiquement aussi. Hein. C'est des femmes qui ont vraiment vécu des choses et physiques et psychologiques. Mais aujourd'hui, c'est incroyable. Elles ont une force, mais on peut en prendre exemple. Hein. Et ce qu'il nous faudrait aujourd'hui, si on peut lancer un appel, c'est des promesses d'embauche. Alors on peut aller sur le site de la Maison des Femmes, il y a une adresse mail. Si vous nous entendez, s'il y a des employeurs, des gens aussi qui auraient des colloques, qui pourraient héberger des personnes, des femmes ponctuellement même, hein, qui auraient besoin pour cet été de personnes pour les aider sur leurs vacances avec la garde d'enfants, etc. Tout est bon à prendre. Si des personnes nous font des dons, ils seront bien sûr entrés et reversés à des personnes. Ça, on peut peut-être s'engager à ça un petit peu aujourd'hui. On ne le faisait pas, mais là, on est dans une situation extrême.
Et voilà. Donc, On pourra contacter du coup la Maison des Femmes de Bordeaux pour faire ses dons. Je vous remercie à toutes les deux. Merci Isabelle de la Maison des Femmes et merci Hope aussi de la Maison des Femmes. Okay. Bonne journée à vous.
Merci beaucoup. La